Vous écoutez
RMC. RMC, 9h30, midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h06 de retour dans les grandes gueules du sport. Merci beaucoup de votre fidélité. Vous êtes très nombreux à nous écouter en podcast. Donc n'hésitez pas, nous avons parlé de Mbappé, de Gattuso, de Carlos Alcaraz, des filles du biathlon. Vous pouvez aller réécouter tout ça en podcast. Toujours avec Marc Madio, Pascal Duprat, Julien Beneteau, Christophe Cessieux. Nous allons parler des coachs, des sélectionneurs qui refusent, qui évitent les questions des journalistes. Un coach doit-il parler ? Nous doit-il des explications ? On ouvre le débat dans quelques minutes. 11h30, le débat caché. Les GG ne savent rien et pourtant elles vont devoir débattre. Je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, très compliqué à trouver le débat caché. Il y avait une petite idée comme ça, Julien ?
Moi, je pensais que tu allais me faire un truc sur Tiger Woods et le fait qu'il ait abandonné.
Mais le fabuleux tournoi du Genesis Invitational, voilà, c'est ce week-end.
Que tu suis, évidemment.
Bah, évidemment, je suis. Demain, d'ailleurs, le podcast Golf, le Practice RMC. Oui. On reviendra sur cet abandon de Tiger Woods. Et sachez qu'on vous prépare une énorme surprise car Mathieu Pavon sera notre invité exceptionnel dans une semaine. Voilà, c'est à retrouver tous les lundis. Mais c'est pas Tiger Woods. Non, c'est encore plus introuvable que ça. Je laisse un petit peu de suspense. Et puis 11h45, c'était mieux avant, le bonbon nostalgique de Christophe Cessieux, spécial JO en 2024. Christophe, c'est quoi le bonbon aujourd'hui ?
On remonte le temps. On est parti de 1924, on est allé en 1936, là on va aller en 1948, les premiers jeux de l'après-guerre, et on va s'intéresser à une championne quasiment oubliée. Si je vous dis Micheline Ostermeyer, ça évoque quoi pour vous ?
Mais le nom dit quelque chose.
Championne olympique.
Oui, championne olympique, mais de quoi ?
De disque.
Ouais, pas mal. Et pas que.
Elle a fait des chansons ?
Pas que de disques ?
Non, pas que de
disques. Ah, la natation aussi, non ?
Non, quand même pas. Lanceuse de poids, lanceuse de disques, elle faisait aussi de la hauteur, elle faisait tout. Et en plus, c'était une virtuose au piano. Et je vais vous raconter son histoire tout à l'heure.
Voilà, elle faisait des disques stade, elle faisait des disques dans un studio.
Oui.
Bravo. L'humour avant tout dans cette émission. Merci beaucoup, Christophe. Ce sera donc dans une demi-heure maintenant pour.
T'as trop traîné avec Stéphane Brun.
C'est possible.
Ouais.
Ou c'est l'inverse. Mais en tout cas, il y a eu un mélange qui s'est pas bien passé. Luis Fernandez a dit un jour, le succès n'a pas besoin d'expliquer. Ça fait rire Pascal quand je cite les grands auteurs.
Ouais.
Le succès n'a pas besoin d'explication. L'échec n'admet pas de justification.
RMC, les grandes gueules du sport passent la seconde.
À un moment donné, les Saint Grégoire, on est des Gaulois.
Tu n'as rien compris.
C'est pas la théorie de Darwin, pour survivre, c'est pas les espèces les plus fortes ni les plus intelligentes qui survivent. C'est celles qui s'adaptent.
Non, moi non plus, j'ai rien compris.
Why are you here tonight?
Très bien. Respect du haut anglais. Adversaire très fort et très respectable sur le terrain.
Pourquoi ?
Parce que c'est le football.
Parce que c'est le football.
Non, basketball.
C'est pas le basket.
Non,
c'est le football. Je sais,
c'est le football. Tu n'as rien
compris. 2-0 pour l'équipe de France et qu'on ramène l'euro et qu'on reprenne celle de l'Espagne.
Non plus, j'ai rien compris.
De l'équipe de l'euro 2000 il y a 4 ans et qu'on la reprenne. Effectivement, qu'on la reprenne.
J'avais pas compris ça comme ça.
Mais allez, la France !
Toujours bloqué dans la mauvaise zone.
Vous vous souvenez pas de cet extrait ?
C'était qui, ça ?
C'était une supportrice de l'équipe de France interroger un micro d'un journaliste. Un peu difficile au début. Enfin, à mon avis, l'animation, ça sera pas pour elle. Mais bon, on l'embrasse évidemment chez nous. Allez, la France, c'est pas grave. C'est le passage obligé pour tout entraîneur ou sélectionneur. Les conférences de presse, certains jouent le jeu. D'autres préfèrent esquiver les réponses, à l'image depuis quelques semaines de Luis Enrique, l'entraîneur du PSG, qui goûte peu aux journalistes. Ou encore Fabien Galthié, le sélectionneur du 15 de France. Une attitude un peu désinvolte qui fait parfois grincer des dents. Nous ouvrons le débat dans les GG avec un entraîneur, Pascal Duprat, un sélectionneur, Julien Beneteau, de l'équipe de France de tennis féminin, et Marc Madio, patron d'une équipe cycliste. La musique qui fout les jetons est cette question. Les entraîneurs, nous doivent-ils des explications ? Oui ou non ? Et on a aussi besoin d'avoir un journaliste. Parce que lui veut des explications à chaque fois. Christophe Cessieux, oui ou non ?
Évidemment qu'ils doivent des explications. Ils doivent arrêter de nous prendre pour des imbéciles, surtout.
Ok.
Ça, c'est différent.
Bah, on va en débattre. Julien Beneteau ?
Pas forcément.
Pas forcément. Marc Madio ?
Oui. Et non.
Merci Denis Charvet. Pascal Duprat.
On a le droit de faire ça ?
Oui.
Non, on n'a pas le droit de faire ça.
Vraiment. Non, mais on le prend.
Ouais, bien sûr.
Pascal, c'est quoi toi ? Non ?
Non,
pas d'explication. Je m'en serais douté. Avant de débattre, on va retrouver l'un de nos suiveurs du 15 de France, Julien Landry. Salut Julien.
Salut JC, salut les grandes gueules.
Prenons avec toi évidemment l'exemple de Fabien Galthié. C'est le plus récent depuis le début du tournoi des Six Nations. Sa communication laisse un peu voire vraiment perplexe.
Ouais, et on pourrait même remonter à plus loin, JC. Oui. Nous sommes toujours en attente d'explications franches sur la défaite en quart de finale contre l'Afrique du Sud.
Non, c'est pas vrai.
On doit
ça.
Toujours
ça,
se contenter de ces fameuses datas sur les potentiels non. points marqués où je suis responsable, c'est à refaire, je reprendrai la même stratégie. Une absence voilà. de remise en question qui crispe comme l'ancien sélectionneur Pierre Berbizier.
Le problème, c'est effectivement faire à un moment le bilan. Mais quelque part, j'ai l'impression que ça gagne les joueurs, ne donnant pas de réponse. Ce que je vous disais tout à l'heure, on rentre sur un terrain en ayant préparé des réponses. Et j'ai l'impression que même les joueurs sont à l'état de questionnement. Je me répète, il aurait été bon de faire un bilan après la Coupe du Monde.
Une frustration qui s'est accentuée après l'humiliation irlandaise à Marseille où les Bleus ont été dépassés et où Fabien Galthié s'est plongé dans de grands silences après le match et dans des analyses loin d'être très profondes.
On peut dire que c'est une défaite. Donc une défaite pour ouvrir le tournoi, c'est pas positif. Donc c'est une défaite avec tout ce qu'elle son lot de charges négatives qu'elle porte avec elle. Donc oui, on a perdu au Stade Vélodrome pour notre premier match, la première mi-temps. Difficile aussi, puisqu'on a joué à 14 très très vite. Très très vite, on a compris que le match se jouera à 14. Un premier carton jaune, puis un deuxième. Ça nous a amené dans le dur très vite.
Et après l'Écosse, on a basculé dans un monde, un autre monde, celui des bisounours, où tout était parfait, refusant aussi d'admettre les lacunes de son équipe.
Honnêtement, le contenu, quand vous gagnez en Écosse avec 4 points d'écart, pour moi, ça me va. Vu le niveau de l'équipe écossaise en ce moment, vu le contexte dans lequel on est, je ne vais pas m'apesantir et être redondant. Je trouve que c'est parfait. Le contenu est parfait. Depuis 4 ans, je vous dis, on n'est pas là pour faire des démonstrations. On est là pour représenter et pour gagner les matchs.
On aimerait pourtant des démonstrations. C'est vite oublié la victoire en Écosse bonifiée d'il y a 2 ans, les 50 points en Angleterre la saison dernière. Il est loin le temps où le sélectionneur développait son projet de jeu lors de 2 masterclass chez nos amis de Canal+. Il s'est enfermé dans une communication minimaliste, comme à la fin de son aventure à Montpellier ou à Toulon, en espérant pour lui une issue différente.
Merci beaucoup Julien Landry pour ces précisions. Les entraîneurs nous doivent-ils des explications? Le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. Julien Beneteau était prêt à bondir dès les premiers mots de Julien Landry. Vas-y Julien, tu commences.
Mais non, parce que en fait, sur la Coupe du Monde, il le dit. Si je dois les data, les trucs, si je dois refaire les choses, je referai la même chose. C'est une forme de communication et de bilan, etc. Sauf que ça plaît pas aux journalistes et à, on va dire, au microcosme du rugby français, qui est un peu anti-Galtier.
À ce moment-là. Et aux supporters français. Parce qu'on n'est que le relais des supporters. Et quand tu vas dans les stades, Julien, quand tu vas dans les stades, les jeunes, les supporters te disent, on ne comprend pas pourquoi Galtier ne nous a pas expliqué pourquoi on avait perdu et comment on avait perdu.
Mais parce que
peut-être les journalistes contre les entraîneurs ou les coachs. C'est la population.
Parfois, il n'y a pas de réponse rationnelle. Ils ont perdu d'un point contre les tenants du titre qui ont gagné la Coupe du Monde juste derrière, dans des conditions où ils sont parvenus sur l'arbitrage. Voilà, il n'avait pas son ouvreur avec qui il a construit son mandat qui était blessé.
Dupont était diminué.
Et quand on parle de
donner
des explications...
Quand tu lui poses la question, est-ce qu'il fallait que Dupont joue
Mais lui, avec les informations qu'il a, c'est pour ça que je vais revenir. Les choix qu'il fait, quand on est sélectionnaire, on est amené à faire des choix à l'instant T. Ces choix découlent d'une réflexion et d'une multitude d'informations qu'il a en sa possession, qu'il partage avec son staff, qui fait qu'il fait les choix à l'instant T. Mais après, avec vous, quand je dis vous, il n'y a aucune condescendance et aucun mépris dans la relation avec les journalistes.
Disons-nous les choses.
C'est que pour expliquer les choix, il faut expliquer plein de choses de ce qui se passe en interne. Donner des informations sur l'état d'un tel. Et peut-être que ça, dans la vie d'un vestiaire et pour préserver les joueurs, on peut pas vous les donner. Ça veut pas dire qu'on le veut pas, mais on ne peut pas. Par contre, ces informations-là font partie du process dans la décision pour faire le choix. Et je dirais une autre chose sur Galthié. Par rapport à plein d'entraîneurs, Galthié, il fait ses entraînements à ouvert, ses entraînements à haute intensité, ou quand il donne son équipe le jeudi à midi en conférence de presse, l'équipe, elle est connue dès le mardi ou dès le mercredi, les chasubles des titulaires, les chasubles des remplaçants. Jamais il vous l'a fait à l'envers, auprès des journalistes ou vis-à-vis de l'équipe adverse. Il s'en cache pas, il s'en prive pas. C'est juste que parfois, par rapport à Enrique, on va revenir à Galthié, il y a trop de conférences de presse, surtout au foot, où ils ont rien à dire. Pour répéter des choses des banalités, ça ne sert à rien. Et parfois, il y a des réponses qui ne vous conviennent pas ou qui conviennent pas aux journalistes.
Mais il se dit rien dans ses conférences de presse aujourd'hui,
bah, Julien.
Il n'y a plus Galtier. Une seule conférence de presse intéressante. Moi, alors, je vais pas beaucoup dans les conférences de presse. J'étais à Murrayfield samedi dernier.
Je finis sur ça. Je pense que ça, celle de l'Écosse, là, c'est la conséquence de l'après-Coupe du Monde pour Galtier. C'est qu'il a bien vu qu'il y avait un climat ambiant un peu réfractaire ou négatif vis-à-vis de lui, de la part de la presse et de la part du monde, une partie du monde du rugby, qui pour moi est injuste par rapport à ce qu'il a fait et par rapport à où il a pris l'équipe de France. Et lui, il doit le ressentir comme ça. Okay. Ils ont perdu en quart d'un point. Il n'y a pas tout à remettre en cause.
C'est parce la conséquence que c'est d'un désamour avec les journalistes.
Quand tu te regardes dans les yeux, j'étais à 4 mètres de lui. Et, oui, et il te dit, là, le contenu est parfait. Tu as envie de prendre ton stylo et de lui jeter à la gueule. Il se fout de ta gueule. Il se fout directement de ta gueule. Et je pense que Henrique.
Pourquoi tu le fais pas, Christophe?
parce qu'il y avait un
truc à côté, il est très
costaud. Non, mais franchement, c'est. Non, mais je. Voilà. La chose est certaine, je n'irai plus à une conférence de presse. Ça n'a aucun intérêt. Que disent les coachs, les entraîneurs, eh bien, ça ne sert à rien aujourd'hui. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune journaliste, que j'allais justement dans les conférences de presse de l'équipe de France. Tu discutais avec les mecs, tu créais des amitiés, tu apprenais des choses, ils t'expliquaient leur métier, ils t'expliquaient leur façon de faire. Ouais, c'était pas pareil. Ben, c'était mieux. Et là, en l'occurrence, c'était vraiment mieux avant. Et les gens et le grand public découvraient peut-être les coulisses de ce qui se passait. Aujourd'hui, vous voulez tout fermer. Vous voulez rester entre vous. Entre vous, la com, avoir un mec de ton équipe, il faut envoyer 15 mails, mais il faut envoyer des fax, il faut faire un sujet d'enfant.
Non,
c'est
hallucinant ce qui se passe,
qui est beaucoup plus efficace.
Mais c'est pareil,
retire ce que tu viens de dire. Oui, oui, vous inquiétez pas, ce sera coupé au montage, même si on est au direct. Christophe ne le pensait absolument pas.
Il est dans une compétition, il est en plein tournoi, ils ont pris une branlée contre l'Irlande au premier match. Là, il gagne en Écosse. Ces conférences de presse, c'est à chaud, c'est après un tour, après
peux,
un match. C'est dur d'analyser.
Vérité.
Par contre,
Julien,
non,
tu peux
non,
dire la vérité. Mais non, tu as déjà trop parlé.
À la fin du tournoi. Mais
non, mais à la fin du tournoi,
tu te poses avec lui pendant 1h30, 2h. Et tu lui demandes un bilan.
Ce qu'on voulait faire après la Coupe du Monde, on voulait se poser avec lui. Jamais il s'est posé.
Il a attendu, il a vu les commentaires négatifs à son égard.
Tu dois profiter d'une victoire, même si elle a été acquise dans la difficulté, pour t'asseoir à expliquer et de dire, voilà, il y a des choses qui vont, des choses qui vont pas, mais tu les détailles avec les mecs. Autrement ça ne sert à rien.
Peut-être que la victoire
autrement,
lui suffisait.
Il faut rompre les relations entre les médias et les coachs. Vous n'avez plus rien à nous dire, vous êtes inintéressant au possible.
Ok, merci beaucoup Christophe.
Je ne peux pas te laisser dire ça.
Mais vous n'y répondez pas aux questions de toute façon.
Pascal Dufrat.
Non Christophe, je ne peux pas te laisser dire ça.
Non, ben vas-y.
Je vais prendre l'exemple de Galtier, puisqu'on est sur Galtier. Quand l'équipe de France perd en Coupe du Monde, ça joue à peu de choses. Peut-être que il sait que ses remplaçants ont failli. J'émets une hypothèse. Ses remplaçants ont failli. C'est pour lui la justification de la défaite de l'équipe de France contre l'Afrique du Sud. Tu penses qu'il est de bon ton qu'il le dise à tout le monde, à toute la France, sous prétexte qu'il doit tout dire aux journalistes, donc il est obligé d'avoir un droit de réserve. Prenons le match contre l'Irlande, le premier du tournoi des Destinations cette année. Willem Cey se fait expulser. Les Français sont à 14 pendant.
Il ne fait que dire ça. C'est sa seule explication à la défaite, c'est Willem Cey s'est fait expulser, on s'est retrouvé à 14.
Sa seule explication.
C'est la seule.
Mais tu crois qu'elle n'est pas plausible, son explication?
Et je continue
et
de faire
ensuite,
confiance
en Écosse,
au même groupe.
En Écosse,
derrière,
il gagne petitement.
Bah, ça, il a. Alors,
voilà, il gagne en Écosse petitement, mais peut-être que ça, la victoire lui suffit. Et pour lui, cette victoire, elle est belle.
Il a raison, Pascal. Mais voilà, ça, c'est très intéressant. Combien de temps on a reproché au rugby français l'inconstance dans une charnière? Changer une équipe au gré des résultats. Alors que pendant le même temps, les Néo-Zélandais avaient toujours Dan Carter. Est-ce qu'il a toujours eu 10 sur 10 sur ces matchs, Dan Carter? Non. Sexton avec l'Irlande, est-ce qu'il a toujours été parfait? Non. Par contre, c'est les mecs qui ont 110, 120 sélections. Et Galtier, qu'est-ce qu'il a fait depuis le début de son mandat? Il a une ossature. Il y croit et c'est ce qui a failli, c'est ce qui a donné les bons résultats sur les 4 premières années de son mandat. C'est qu'il parie sur Dupont et Tamac. Qu'est-ce qui se passe? Intermec se pète le genou en préparation, Dupont se fait blesser par la Coupe du Monde.
Il y a plein de choses. Bien sûr, il y a des conséquences pour expliquer la défaite au final du 15 de France, mais moi je voudrais savoir ce manque de lien. Parfois, attention, hein, on tombe pas sur tous les entraîneurs, tous les journalistes, la plupart du temps ça se passe très bien, mais c'est vrai que sur deux, on va dire, quand t'es entraîneur du Paris Saint-Germain, quand t'es entraîneur du 15 de France, c'est deux entités extrêmement fortes, et on sent qu'il n'y a pas de lien, et même
non,
pas de rapport.
Non, mais ça les gonfle les entraîneurs d'aller pour le vent de tour aux journalistes qui non, ne sont pas du pas même ça, niveau qu'eux, et qu'on veut vrai. Leur pose non, des non, questions. Non, vrai, ça les emmerde, ça vous emmerde, vous n'avez pas envie de le faire. Vous n'avez pas envie de le faire. Et vous avez des conseillers de communication qui vous donnent des éléments de langage, et vous vous tenez à ces éléments de langage, et quand il y a un journaliste qui ose émettre une critique, qui ose faire un papier ou qui vous égratigne, alors là, vous montez au rideau en disant que voilà on donnera enfin bref. Okay, je trouve qu'on ne se comprend plus et c'est terrible parce que lorsque je répète une fois quand j'étais jeune j'allais à l'entraînement du 15 de France, t'interviewais les mecs, tout le monde passait, tu discutais, pas forcément un micro ouvert, tu discutais avec les mecs, ça tu discutais
toujours.
Avec le mais
pas où ça existe, ouvert, ça existe
pas dans les grandes équipes, ça n'existe plus. Bah, ça n'existe plus.
Non, c'est l'équipe de France de tennis quand même, c'est pas une petite équipe. Marc Madiou n'a pas parlé. Pascal, je te redonne la main. Marc Madiou,
avec les journalistes.
Ton point de vue, tu peux entrer dans le débat.
Ouais. Moi, mon point de vue, il est très simple. Je pense que, objectivement et honnêtement, on doit donner du grain à moudre aux gens qui sont en face de nous, qui font l'effort de venir nous
mais
voir.
Mais toi, tu fais l'effort, Marc.
Après.
Tes coureurs, c'est différent, mais toi, tu le fais.
Je fais l'effort parce que si je ne veux pas communiquer, il faut que je change de métier. Donc, à partir du moment où j'accepte d'être dans un métier public, je réponds systématiquement favorablement à toutes les sollicitations.
Pareil.
Après, c'est moi qui fais ma réponse, c'est moi qui amène mes arguments, et c'est moi qui fixe les limites de ce que je vais dire. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'à un moment, tout en donnant de l'information, tout en donnant des billes aux journalistes qui sont en face de moi, je suis aussi là pour protéger mon institution. Et mon institution, c'est mon équipe, mes partenaires, mes coureurs et mon encadrement. Tant que je reste dans quelque chose de correct, je peux me permettre de l'exprimer. Si je mets en doute ou en cause de manière trop forte ou trop importante mon encadrement ou mes coureurs ou mes sponsors, je sors du chemin que je dois respecter.
Voilà. Et tu te fragilises, tu fragilises l'équipe.
Et je fragilise l'équipe, mais je protège mon équipe.
Marc est modèle, encore un des derniers des Mohicans, mais effectivement, à la fin des étapes du Tour de France, tu as toujours possibilité d'aller faire une petite interview avec Marc. T'es pas obligé de te mettre derrière une estrade avec trois micros et non, t'es en one-to-one, t'es face au mec, tu le regardes dans les yeux et il y a un dialogue qui se crée. Évidemment, aujourd'hui, avec ces conférences de presse, tout le monde est derrière l'estrade, il y a le micro qui circule dans la salle et ça se passe comme ça. Comment tu veux créer
ça,
comment
d'accord.
Tu veux avoir
ça, c'est sur le foot, on est d'accord, ça je suis d'accord, c'est sûr.
Mais c'est le
mais là,
foot,
c'est pas de la faute des coachs, ça alors
non
et je pense que la récurrence
du système
je pense en plus notamment au football,
c'est
la récurrence. Quand il y a une semaine où il y a un match de Coupe d'Europe, ils ont le championnat le week-end, donc conférence d'après de match d'avant match, d'après match de Ligue 1. Le mardi, la veille de la Ligue des Champions, conférence de presse, conférence d'après d'après match. Bon, et en trois jours, il fait quatre conférences de presse. Ça sert, enfin, à mon avis, la récurrence de ces conférences de presse nuit.
Conférence de presse.
À quoi nuit au message
à ce moment-là tu n'es pas il se passait avant des choses, c'est t'avais le sélectionneur ou son adjoint et tu envoyais les joueurs. Aujourd'hui les joueurs ils veulent plus y aller non plus aux conférences de presse.
Les conférences de presse souvent dans le foot ont un côté trop protocolaire.
Oui.
Et je pense que si on revient à quelque chose auquel tu auquel tu fais référence par exemple sur le Tour de France, tes collègues et toi-même, vous venez au pied du bus et vous avez ou le coureur ou le directeur sportif.
Ouais,
ou
ça a un peu changé là aussi. Hein, depuis le Covid, ça a un peu changé. C'est plus compliqué aussi.
Oui,
hein.
Oui,
c'est en train de se footballiser là aussi petit à petit. Mais bon.
Vous savez quoi ? On va poursuivre le débat parce que c'est extrêmement intéressant. Donc je vous propose que le débat caché, c'était intéressant, mais beaucoup moins que ce qui est en train de se passer ici. Je vous le dis dans quelques instants. Juste Malcolm veut réagir. À ce débat et à vos propos. Bonjour Malcolm.
Bonjour, comment allez-vous ?
Bah merci, très bien. Toi, t'as composé le 32-16. Tu as eu les sachants qui ont parlé, qui ont donné leur point de vue en sincérité. T'en penses quoi ?
Alors j'ai écouté les sachants. Alors j'étais un peu comme Marc. Au départ, j'étais en mode oui et non. Et puis à Christophe, qui m'a un peu fait bouger mon avis. C'est-à-dire que là, je suis plus vers le non. Dans le sens où, en fait, Alors oui, un peu quand même. Oui, les entraîneurs doivent donner certaines explications, certaines choses. Mais il y a un truc qui m'agace un peu, et c'est ce que Christophe m'a un peu dégagé, c'est que certains journalistes, c'est un peu en mode vous nous devez tout. Si on n'aime pas les réponses, eh ben non, ça ne nous plaît pas. Et c'est en fait, ça donne l'impression que si les entraîneurs peuvent pas donner cette réponse ou certaines réponses ne plaisent pas.
Quand Galtier dit que le contenu du match face à l'Écosse est parfait, tu acceptes la réponse et tu dis amen et tu te signes.
J'ai pas étudié amen, mais ça.
Bah voilà. Si tout ce qu'on te dit, tu le prends comme argent comptant. Et ben vas-y, voilà. Mais moi je suis pas d'accord.
Mais de l'autre côté, tu crées à chaque fois. Mais de l'autre côté, faut pas non plus arriver de comme ça. Genre, s'il a pas de signification, peut-être qu'il faut laisser un peu de temps et après il va amener sa réponse. Alors, ça fait quand même beaucoup de temps. Mais, genre, j'ai l'impression que maintenant, à cause de toute cette ultra-communication, et il est vrai qu'il y a beaucoup trop de conférences de presse maintenant, on attend toujours, on veut toujours le bon truc. Et si certains journalistes sont pas assez à tout, ça part en live. Donc, moi, au bout d'un moment, ça commence. Je trouve que parfois, certaines conférences de presse, ça tourne au pugilat parce qu'il n'y a pas la bonne réponse et ça devient insupportable à suivre.
Ok, Marc Madio, Pascal Duprat, ouais. Julien Benneteau ont réussi à te convaincre. Hein. Il est 11h27. On va poursuivre le débat.
Qui a réussi à
le déconvaincre, c'est ce que j'allais dire aussi. Mais je voudrais m'arrêter sur vos choix aussi, Marc Madio, Pascal Duprat, quand vous êtes en exercice, Julien Benneteau, vos choix. Quand vous les prenez, est-ce que vous devez aller vous justifier aussi? Est-ce que ça fait partie de votre job? On se retrouve dans quelques instants pour la suite des grandes gueules du sport. On poursuit le débat. Je vous donnerai le débat caché, mais franchement, on se relève pas la nuit, on manque rien de fou. Allez, à tout de suite, ça c'était très intéressant.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h30 de retour dans les grandes gueules du sport avec Christophe Cessieux, Pascal Duprat, Julien Benneteau, Marc Madio dans une dizaine de minutes. Restez bien avec nous. Ce sera l'heure, le moment que vous attendez, chers auditeurs. Le bonbon nostalgique de Christophe Cessieux, c'était mieux avant. Spécial Jeux Olympiques, les JO de 1948. Nous restons sur notre débat très intéressant avec vous, mais GG, les entraîneurs nous doivent-ils des explications? Vous voulez juste connaître comme ça là, le débat caché que l'on ne fera pas, on passera pendant la pub?
Oui, évidemment.
Ça vous intéresse ou pas?
Oui.
Franchement, c'était introuvable. Hein. Ça s'est passé cette nuit. Il y avait un duel historique lors du All-Star Game de la NBA avec les concours à 3 points. Et pour la première fois, il y avait un concours entre Stephen Curry chez les hommes et une femme, Sabrina Ionescu. Voilà, et c'était un coup aussi de pub, un coup marketing. Mais est-ce que c'était aussi une vraie avancée? C'était la question que j'avais envie de vous poser. Mais franchement, on pourra tranquillement refaire ce débat. Restons sur les entraîneurs. Est-ce qu'ils nous doivent des explications? Et je voudrais revenir sur certains de vos propos, notamment toi, Julien, sur la justification des choix quand on est sélectionneur. Évidemment qu'on ne peut pas tout dire parce qu'on veut protéger son groupe. Mais est-ce que, avec les journalistes, on peut parler réellement de sport? Est-ce que vous, en tant que, en tant que sachant, parfois c'est compliqué. Parce que moi, je te donne un exemple. Si tu veux parler avec Luis Enrique, et il y en a d'autres, hein. En fait, ils n'aiment pas les petites phrases, donc les dossiers sur Mbappé et tout ça, ils en ont marre. Mais dès que t'arrives
on peut les comprendre.
Mais sauf que dès que t'arrives pour vouloir parler de jeu, ils ne veulent pas parler de leurs options tactiques. Comme si, l'interlocuteur qu'il avait en face de lui n'était pas assez bon pour pouvoir comprendre ce qu'il avait envie de mettre. Est-ce que ça existe aussi dans votre réflexion? Est-ce que toi, Julien, avec les journalistes,
c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de consultants, parce que là, ils peuvent discuter d'homme à homme, de sachant à sachant.
Non, alors, ça dépend comment la question est posée aussi. Si c'est moi dans les j'ai rarement eu en conférence de presse pourquoi tu as fait jouer telle joueuse plutôt que telle joueuse. Si on me pose cette question comme ça brute, je vais pas me dire il est pas légitime de me poser, il est illégitime de me poser la question parce que c'est un journaliste, il connaît rien au tennis. Non, pas du tout. C'est son métier, il suit le tennis depuis des années, il connaît des choses, il a un autre angle, etc. Le seule chose que moi je vais pouvoir répondre, ça va être un peu une réponse à la Galtier après le quart de Coupe du Monde, c'est je fais ce choix à l'instant T. Il faut bien comprendre quelque chose. Les entraîneurs, les sélectionneurs, on n'est pas là pour faire des choix. Enfin, je suis pas être en provocation vis-à-vis de l'opinion publique. Enfin, non, il y en a peut-être, mais je pense pas. C'est que à l'instant T où on fait le choix, on pense réellement que c'est la meilleure solution pour l'équipe.
Mais pourquoi ne pas le dire alors?
Moi, ça, je le dis.
C'est non, mais c'est pas ça. C'est pourquoi ne pas dire les justifications un peu plus profondes sans mettre en péril le groupe. Alors, est-ce que ça, c'est possible?
Ça, oui. C'est, parce que c'est compliqué. Je peux dire, avec toutes les informations que j'ai, tout ce que j'ai vu à l'entraînement, tout ce que les filles m'ont dit, tout ce que le staff m'a rapporté, à l'instant T, ce choix me paraissait le meilleur. Voilà. Après, c'est compliqué de rentrer dans les détails parce que on peut dévoiler des choses de certains joueurs ou de certaines joueuses qui n'ont pas à être révélés. C'est là où c'est
difficile de répondre.
Et je peux comprendre que ce soit difficile pour les journalistes de l'accepter, mais en même temps, c'est la ligne qu'ils doivent accepter pour qu'après, comme disait Marc, on peut donner un peu du grain à
moudre. Toi, ton job, c'est aussi de protéger et surtout de protéger ton groupe. Évidemment. C'est ce que tu veux nous dire. Pascal Duprat, justement, sur cet échange, est-ce qu'on peut vraiment parler foot avec les journalistes? Et c'est vrai que souvent, la réflexion que l'on vous fait, c'est pas aux journalistes que vous répondez. Et Christophe le disait bien, c'est au grand public. On est juste le relais.
Oui, mais Pascal. Alors là, pour ce qui est des options tactiques que tu choisis quand tu es coach, Julien l'a dit tout à l'heure, quand on prend ces options, on les prend avant la rencontre. Et il se trouve que vous, journalistes, bien souvent, pas tous, mais souvent, vous interprétez donc le choix tactique en fonction du résultat. Donc il est systématiquement mauvais quand vous avez perdu.
Ouais.
Et on arrive ensuite, la conférence suivante,
bon quand vous avez gagné.
Après, on va dire, mais cet entraîneur-là est pauvre tactiquement, est toujours enfermé dans le même schéma tactique. Vous prenez pas donc en considération ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir, l'entraîneur, il fait des choix. Quelquefois, ces choix, ils sont conduits par des attitudes à l'entraînement. Il est obligé de protéger son institution. Tu as, par exemple, là, en ce moment, Gattuso, le débat à 5, à 4 derrière. Mais peut-être que Gattuso, il a pas envie de dire à tout le monde qu'à 4, il est fragilisé parce que ses défenseurs latéraux, ils sont pas bons, vos défenseurs. Il peut pas le dire. OK? Il peut pas dire que son effectif est construit de telle manière à ce qu'il ait une difficulté à installer un système récurrent parce que son effectif est pas assez performant. Il peut pas le dire, il doit protéger. Le problème, c'est que vous, les journalistes, en tout cas, les journalistes qui nous suivent, eh bien souvent, si la réponse ne l'aurait pas, ne les contente pas, alors ils vous massacrent. Mettez-vous à la place des coachs, donc.
Mais moi, je trouve ça très intéressant, et c'est vrai qu'il y a une part de vérité. Et souvent, j'ai souvent l'impression que vous avez peur. Je dis vous, hein, vous comprenez bien, je cible personne. J'ai souvent l'impression que vous avez peur, et franchement, à juste titre, de la petite phrase. C'est-à-dire que vous pouvez sortir un propos très intelligent sur une tactique, vous dites un mot de trop, et vous savez que c'est ça qui va être repris. Parfois vous en jouez, mais parfois c'est à votre corps défendant. Et donc au final, vous dites plus grand-chose. Marc, vous voulez réagir.
Vous considérez les médias qui viennent vous voir, qui vous rencontrent, comme les ennemis?
Ah, non. Pas du tout. Moi, jamais en tant que joueur. Et c'est pour ça que je m'entends bien. Moi, quand j'étais joueur, jamais. Et en tant que sélectionneur, pas du tout. Mais en même temps, moi, j'ai pas
contre. Par contre.
Pas non plus.
Marc Madu.
Non, moi, j'ai pas de souci avec ça. Je considère pas les médias comme des ennemis, plutôt comme des relayeurs et plutôt comme des gens qui sont dans la même barque que nous. Ouais. Quand vous êtes sur le Tour de France, on est ensemble sur le Tour de France. Mmh. Donc, on travaille ensemble. Par contre, il y a quand même un élément extrêmement important dans notre rôle de coach. C'est de toujours savoir qui on a en face de nous.
Ouais.
Qui est là?
C'est important.
Qui fait quoi? Et qui vient pour raconter ou essayer d'avoir telle ou telle information. Oui. Ça, c'est quand même très important parce que nous, le cycliste, on a quand même connu des moments difficiles et en fonction des médias qui étaient devant nous à une certaine époque, on savait ce qu'ils venaient chercher.
Ouais, bien sûr, ça c'est vrai.
Et ça c'est déterminant, savoir
même au sein du même média.
Mais c'est
même au sein du même média, on est d'accord. Même au sein du même média,
souvent c'est pas ça l'exemple différent. Bad cop et good cop.
Exactement. Au sein du même média, ça c'est hyper important parce que du coup, tu sais ce que tu vas pouvoir dire. Ouais.
Mais c'est pour ça que c'est pour ça que je pense que c'est plus intéressant pour un coach de donner des interviews à des personnes en particulier, plutôt que d'être devant une estrade et de répondre à tout le monde. Là, tu connais pas forcément.
Tu sais pas, toujours dans le côté. On fait de l'eau tiède devant une estrade.
Exactement.
Et d'ailleurs, vous ne vous y trompez pas parce que souvent, dans une conférence de presse, il y a le micro qui se balade dans la salle.
Et les questions,
il y a 3-4 questions, puis après, il n'y a plus de questions. Tu
Et les questions sont moins intéressantes. Et
les vraies questions, en fait, viennent après la conférence.
Elles sont one-to-one, après, voilà, ou après, voilà, après une étape, ou après une épreuve, ou à la fin de rencontre, on se pose. On est d'accord. Ok. Ouais. C'est pour ça que je te dis, ouais. Gatier, après, à la fin du tournoi.
Mais toujours savoir qu'il y en a en face. Si, de soi. Toujours, toujours.
Ce sera
toujours,
beaucoup
toujours
plus intéressant qu'à la sortie du match.
Ouais, mais tu peux pas attendre 6 semaines pour,
Non, le problème,
c'est compliqué.
L'actualité, les médias font qu'on a besoin incessant d'avoir de l'info. D'avoir des réactions avec les uns et les autres, d'avoir une explication sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et tu peux pas te contenter de ce que tu as
d'accord. Mais, Pascal voulait réagir, et peut-être, franchement, parfois il faut savoir faire notre autocritique, et parfois
quand tu vas poser des questions cette semaine à Luis Enrique sur Mbappé, alors que tu sais très bien qu'il peut pas
obligé.
Parler,
mais tu sais
que t'es obligé de lui poser la question, et lui il est obligé de, et tu sais qu'il va te répondre, qu'il va t'envoyer dans
c'est un jeu, le journaliste, il pose pas la question.
C'est pas grave,
Pascal. Pascal, tu voulais réagir.
Je voudrais simplement répondre à Christophe. C'est un ressenti, ce que je vais dire, Christophe. Là, je te parle à toi en tant que journaliste. J'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de journalistes honnêtes aujourd'hui. En tout cas, qu'avant, les rapports étaient plus francs aussi de ce côté-là. On savait à qui on avait affaire.
Et il y avait aussi des journalistes qui connaissent ce dont ils viennent parler. Ça, c'est quand même aussi un autre élément important. Alors, dans le foot, c'est facile parce que c'est tous des spécialistes du foot. Mais, par exemple, moi, je vois sur le Tour de France, il y a des journalistes connaisseurs qui maîtrisent et qui analysent tout à fait justement notre sport. Et il y a une partie de journalistes qui arrivent sur des événements comme le Tour de France qui ne sont pas des spécialistes du
Et qui viennent peut-être juste pour la petite phrase, et c'est là où vous devenez un peu arrogant.
C'est pour ça qu'il est toujours important de savoir qui on a en face de soi.
Okay.
C'est pas gentil pour Christophe, quand même.
Non, mais c'est un vrai, lui, c'est un pro.
Pascal, juste pour terminer ce débat, tu répondais à Marc en disant on ne sait pas toujours qui on a en face de nous, et ça peut être un problème.
C'est pas faux.
Ben non. Il y a tellement de journalistes, j'imagine que pour le Tour de France, c'est pareil que pour le championnat de France au football. Il y a tellement de journalisme, il y a tellement de réseaux sociaux, il y a tellement de d'informations en ligne que tu sais pas toujours à qui tu
vas faire. Ouais, mais tu dois être à l'affût. C'est ton boulot d'être à l'affût.
Mais au-delà de ça, je terminerai là-dessus. On s'est détourné, je t'en donne la main.
C'est une bataille entre les deux camps.
Non, c'est une collaboration. Je veux pas qu'on reste dans les deux temps. Il nous reste vraiment une minute, mais je voudrais pas qu'on reste que dans les deux temps.
Il y a des bagages cachés derrière.
Mais non, derrière, c'était mieux avant, Christophe Cessieux. Mais est-ce que vous avez l'impression de voir des justifications oublier les journalistes, mais au grand public? Pascal, est-ce que quand toi, t'es coach d'une institution comme Saint-Etienne, tu te dois au peuple stéphanois de leur dire des choses? Et évidemment, ça passe par nous.
Ah bah. Alors moi, voilà, j'étais réputé pour la langue de bois, c'est pas trop pour moi. Et par rapport aux supporters, mais également par rapport aux journalistes, par rapport à tous ceux qui nous font vivre, en quelque sorte, je me dois d'être honnête. Si le match a été une purge, je peux pas me esquiver. Je vais dire que le match était une purge. Je vais employer
un entraîneur honnête.
Mes punchlines, des métaphores, mais je vais le dire.
Ok. Alors on aimait, hein, Pascal, en conférence de presse. J'espère qu'on va vite te retrouver dans une conférence de presse.
Et quand Marc rate, quand son équipe rate le Tour de France, à mi-tour, il le dit. Et il dit, voilà, on n'a pas été bon jusqu'à présent, mais on va être meilleur la semaine prochaine, vous allez voir. Voilà, mais au moins, tu reconnais. Là, Fabien, la semaine dernière, j'ai halluciné.
Enfin. Allez, je reprends la main. Il est 11h41. Les entraîneurs nous doivent-ils des explications? Échange, débat extrêmement intéressant. Si vous l'avez pris en route, nous l'avons commencé à 11h, donc n'hésitez pas à aller nous réécouter en podcast. Et merci beaucoup en tout cas, messieurs, pour ce moment d'échange. On se retrouve dans quelques instants pour C'était mieux avant. Et oui, avec qui d'autre que Christophe Cessieux. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h44 de retour dans les grandes gueules du sport. C'est la dernière ligne droite. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. À partir de midi, les paris RMC, la Dream Team, autour notamment de la rencontre Brest-Marseille. On vous donnera toutes les cotes. Toujours avec Pascal Duprat, Julien Beneteau, Marc Madiot et évidemment Christophe Cessieux.
Les GG.
Tatopec démarre à son tour et passe les trois hommes. Mimoun reste dans sa foulée. C'est une empoignade extraordinaire.
Jesse Owens. Il arrive en première place avec un temps de 10 secondes et 3 dixièmes.
Marie-José Perec qui revient à la hauteur de Chris Guida. Elle est championne de la pique.
C'était mieux avant.
Tous les dimanches, vous retrouvez Christophe Cessieux dans cette séquence. C'était mieux avant sur les Jeux Olympiques 1948. Nous sommes à Londres.
Il est
précisément 16h ce jeudi 29 juillet 1948. Il fait une chaleur de plomb dans les rues de Londres et au-dessus du stade de Wembley. Plus de 40 degrés au thermomètre lorsque la grosse cloche du carillon de Big Ben sonne le début de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, 14e du nom.
En présence de leur majesté, le roi et la reine d'Angleterre, 82 000 spectateurs et 6 000 athlètes venus de tous les points du monde assistent à l'inauguration des 14e Jeux Olympiques de l'ère moderne. Sa majesté, le roi George VI, a proclamé les Jeux ouverts.
The Olympic Games of London, celebrating as the 14th Olympiad of the modern era.
Trois petites années seulement se sont écoulées depuis que les armes se sont tues. Le monde est en convalescence et la capitale anglaise pense ses plaies, se reconstruit petit à petit après les terribles bombardements qui l'ont en grande partie détruite. Londres, symbole de la résistance à la dictature nazie, a été désignée 2 ans plus tôt pour organiser ces Jeux du Renouveau qui succèdent à ceux d'Hitler en 1936. Et pour ces Austerity Games, tout n'est pas parfait, loin de là. Les athlètes engagés doivent se contenter de rations type distribuées à la population, rations améliorées parfois par quelques tickets qui donnent droit à des bonbons et à un verre de lait quotidien. Plus de 4000 athlètes ont été conviés à participer, parmi eux 285 Français, contingent qui ne comprend que 36 femmes. Parmi elles, une tête dépasse de la troupe, du haut de son 1m79, Micheline Ostermeyer a une vue dégagée sur la cérémonie.
La cérémonie d'ouverture, j'ai tenu à y participer, alors que j'aurais pu en être dispensée parce que je lançais le lendemain. Finalement, j'avais raison d'être là parce que ça ne m'a pas fatiguée pour le lendemain. J'avais bien raison d'être venue. Tout le monde était content d'être là. Ça, c'est vraiment un très grand bonheur. Ce sont des ambiances extraordinaires dont on se souvient toute sa vie.
Et ces longues heures passées sous le soleil ne vont pas entamer ni le moral, ni les forces de la jeune Française. À 24 ans, Micheline est au sommet de son art, ou plutôt de ses arts. Car si Ostermeyer compte s'aligner sur 3 épreuves durant ces Jeux, le sport n'est pour elle qu'accessoire. Ce qui compte avant tout, c'est le piano, dont elle est une virtuose confirmée et conviée dans toutes les salles de France et bientôt de la planète. Une soliste qui, durant la guerre, a joué tous les soirs sur les ondes de la radio tunisienne où elle réside, les récitals et autres concerts de Beethoven, Rachmaninoff et Debussy. En juillet 1946, au lendemain de la guerre, elle obtient même le premier prix du Conservatoire de Paris, avant de prendre, dès le lendemain matin, le train direction Bordeaux pour y disputer les championnats de France d'athlétisme. Un sport qu'elle a découvert quelques temps plus tôt à Tunis sous les conseils de son entraîneur Antoine Olivieri, sidéré par les progrès effectués en un temps record par Micheline. Musique et sport, un cocktail qui ne fait pas souvent bon ménage, mais qui dans le cas de Ostermeyer va donner des résultats prodigieux.
J'ai fait de nombreuses heures de piano pendant ma jeunesse. J'en faisais même 6 heures quand j'avais 12 ans. Et je suppose que ça m'a tout de même développé les avant-bras, les biceps, et que ça m'a servi pour lancer le poids. En dehors de ça, je suppose aussi que l'apprentissage de gestes aussi compliqués que ceux d'un pianiste m'a facilité les apprentissages rapides. Et que c'est peut-être pour ça que j'ai lancé le disque comme ça, abruptement et avec succès.
Et la jeune femme excelle dans tous les domaines de l'athlétisme, lancer du poids, saut en hauteur, course de haies, avant même de s'essayer à quelques mois des Jeux à un autre lancer, celui du disque. Oh, la technique est loin d'être parfaite, mais la puissance de Micheline fait le reste et lui permet en juillet 48 de se qualifier in extremis pour les Jeux. La préparation olympique de l'époque était loin, vous allez l'entendre, d'être aussi scientifique qu'elle l'est devenue aujourd'hui.
Je faisais beaucoup de piano, justement. Et puis j'habitais en Tunisie, alors je n'ai jamais fait de stage préparatoire. J'ai un entraîneur qui était d'ailleurs remarquable, mais qui m'a donné la passion de l'athlétisme. Et je devais travailler 2 fois par semaine, un peu pendant 3 ou 4 mois, comme ça. Je lançais seulement le poids, parce que le disque, justement, c'était un petit club. Il n'y avait pas assez de dimensions pour pouvoir lancer le disque. Je donc travaillais avec le poids. Et puis le son hauteur, j'avais juste la place de faire 5 pas. C'est comme ça que j'ai préparé. Et on m'a donné, pour me préparer, j'ai reçu une paire de quads.
Et malgré cette préparation à minima, la Française va briller. Dès la première épreuve, le lancer du disque féminin programmé au lendemain de la cérémonie d'ouverture. Le premier concours olympique d'athlétisme est le lancer du disque féminin. Le disque pèse 1 kg et le record du monde est de 48 mètres 31. Un concours dont l'italienne Corda Gentile est la grande favorite, prend la tête dès le premier essai. mais Micheline s'accroche et lancé après lancé se rapproche de sa rivale.
Je ne savais pas du tout ce que je pouvais faire comme performance. J'ai commencé déjà par faire la même chose qu'au championnat de France qui m'avait valu la sélection. Et après, sur les 6 jets, il y en a 5 où j'ai fait à chaque fois 1 mètre de plus et ça commençait à devenir intéressant.
Après se lancer, l'italienne Gentile semble très inquiète. La Française se présente alors pour son dernier essai.
Je pense qu'à mon dernier lancement, et j'ai encore fait 1 mètre de plus et je suis passée devant tout le monde. Et c'était fini, la compétition était terminée, j'avais donc gagné.
La Française obtient les honneurs olympiques.
C'était vraiment tout à fait inespéré. Et on a beaucoup de mal à s'habituer brusquement à avoir gagné une épreuve pareille.
Première victoire française, premier sourire.
Un sourire, certes, mais ce succès tout aussi magnifique qu'inattendu va bouleverser le quotidien de la Française.
J'étais complètement suffoquée d'étonnement, évidemment. Et pendant 2 ou 3 jours, j'ai reçu des tas de télégrammes. Enfin, j'étais très dérangée, tout à fait dans le brouillard, dans un rêve, oui, tout à fait dans un rêve. Parce que je n'avais pas prévu de gagner du tout, là. J'espérais gagner peut-être le poids, mais enfin, le disque était imprévu. Je ne sais pas comment j'aurais pris une victoire prévue, mais enfin, celle-là m'a complètement coupé les jambes. Et quand j'ai voulu aller m'entraîner pour lancer le poids ensuite, car il fallait que je gagne le poids malgré tout, si possible, eh bien, je lançais plusieurs mètres de moins. Et c'était catastrophique, puis il n'y avait rien à faire. Mais ça coupe les jambes de gagner, comme ça...
Fêtée tard dans la nuit londonienne, à son retour à la résidence de l'équipe de France féminine, Micheline se met au piano et entame la sonate au clair de lune de Beethoven. Mais il faut ensuite ranger le piano, se pencher sur une autre tâche et digérer ce titre inattendu. Après 2-3 jours de balbutiement, Micheline échange le disque pour le poids, un concours féminin qui fait cette année-là son entrée au programme olympique et que la Française va survoler.
Lancement du poids féminin après l'essai de l'italienne Mademoiselle Piccini. Voici la championne de France, Micheline Ostermeyer. Avec un jet de 13,75 m, Micheline Ostermeyer est proclamée championne olympique et pour la seconde fois fait hisser au son de la Marseillaise le pavillon français au grand mât olympique.
Le record du monde pourtant ne sera pas battu à Londres ce jour-là, mais à Moscou, où la soviétique Sevriukova, dont la nation n'est pas encore reconnue par le CIO, établit un lancer à 14,59 m, soit 84 cm de mieux que Micheline. Mais après tout, qu'importe, l'or est à nouveau autour du cou de la Française qui rêve désormais d'un troisième titre dans une discipline bien différente, celle du saut en hauteur. Oui, Micheline sait tout faire dans un stade, lancer, courir ou encore sauter. Malheureusement, ce 7 août à Wembley, jour de clôture des épreuves d'athlétisme, les spectateurs londoniens ont autre chose à faire que d'admirer les sauteuses.
Le saut en hauteur, comme c'était la dernière journée, il y avait des épreuves très importantes, les relais, et le public était fort agité. Au moment où je courais, après m'être bien concentré, et sans m'être occupé de ce qui se passait à l'extérieur, parce qu'autrement on n'était pas concentré, l'hymne a éclaté pendant que j'étais en pleine course. Ça m'a beaucoup troublé parce que je me suis dit, bon, ils sont tous au garde à vue, et moi je suis en train de courir. Mais je n'ai pas voulu m'arrêter parce que j'étais lancé, puis j'aurais mieux fait, j'aurais peut-être réussi. En tout cas, là, j'ai raté. J'ai fait troisième, mais je n'étais pas capable de battre les deux premières. Alors donc, j'ai rien à me reprocher.
Non, rien de rien. Évidemment, Micheline achève son Olympiade sans aucun regret, avec un excédent de bagages de 3 médailles. Elle est même l'héroïne française de ces Jeux. Et c'est à ce titre qu'elle est reçue 2 mois plus tard avec les autres champions français à l'Élysée par le président de la République, Vincent Auriol, à 2 doigts de commettre un impair, comme l'explique le journaliste Olivier Margot.
Le président de la République, le matin, s'est aperçu qu'une femme était dans la délégation. Il fallait lui remettre quelque chose. Panique dans le secrétariat du président, finalement. On téléphone à Sèvres. Oui, on vient de recevoir 2 vases et on va donner un immense vase de quasiment 1 mètre de haut à Micheline Ostermeyer, qui évidemment ne sait pas quoi en faire et qui donc pose le vase et l'abandonne. Quand je dis abandonner, c'est qu'elle va être à partir de ce moment-là abandonnée par la République.
Oui, il faudra 40 ans. 40 ans à la République pour reconnaître autrement que par un vase de Soissons le talent, ou plutôt les talents de la championne, aussi à l'aise disque à la main que doigt virevoltant sur les touches noires et blanches. Une virtuose qui, vaincue par des problèmes au dos, abandonnera quelques années plus tard sa carrière de championne pour se consacrer à son art premier, le piano. Et penchée sur son Steinway de mi-queue, Ostermayer continuera d'éblouir ses admirateurs et ses élèves du conservatoire durant des décennies. Des mélomanes qui ne savaient sans doute pas qu'ils avaient affaire là à la première double championne olympique française de l'histoire, une championne aujourd'hui quasiment oubliée.
Micheline Ostermayer, racontée par Christophe Cessieux, les Jeux Olympiques de 1948. Rapidement, les GG, vous entendez cette histoire. J'ai senti, Marc, que tu avais tiqué sur le fonctionnement, le mode de préparation à l'époque aux Jeux Olympiques 48. C'est vrai que ça a beaucoup changé.
Ça a changé, mais en même temps, que c'est bon de se replonger dans tout ce passé, d'entendre les sons et les musiques qui allaient avec ces événements à cette époque.
En plus, je viens de voir en premier parce que c'était quasiment la France du général de Gaulle.
Ah, ben non, c'était pas encore. C'était en Auréole.
Quasiment.
Il a fallu attendre 10 ans pour retrouver le général.
Oui, ça allait arriver. Pascal, un petit mot sur ce que tu as entendu, en tout cas ce que tu as envie de retenir.
Ah, Pascal. Je retiens toujours la voix de Christophe qui. Vous m'entendez ?
Oui, c'est bon.
Oui, la voix de Christophe, voilà. Je trouve que cette petite rubrique, elle est superbe, elle est tout le temps superbe, bien documentée par Christophe, et c'est toujours un plaisir de l'écouter.
Micheline Ostermayer, tu connaissais Julien ou pas du tout ?
Je savais qu'elle avait lancé le disque, je savais pas le poids, je ne savais pas que c'était en 48 à Londres, je ne savais pas qu'elle jouait du piano. Et au-delà de la voix de Christophe, ce sont des chroniques, des rubriques qui sont d'utilité publique. L'histoire du sport, l'histoire de ce qui s'est passé. C'est hyper important pour ces jeunes générations qui oublient un peu qu'il y avait eu beaucoup, beaucoup de grands hommes et grandes femmes avant eux.
Ben justement, si vous voulez tout réécouter, les C'était mieux avant, c'est disponible évidemment en podcast. Tu as le prochain numéro, tu sais de qui tu vas parler ou pas ?
Je vais vous parler d'un certain Zatopek.
Zatopek,
incroyable, Emil Zatopek, la locomotive tchèque, vainqueur de toutes les grandes courses. Je vais parler de Mimoun aussi,
ce sera dans le prochain épisode. Merci beaucoup Christophe Cessieux. Merci beaucoup les GG, Marc Madio, Pascal Duprat, Julien Bellet, Christophe Cessieux. On se retrouve samedi prochain à partir de 9h30, et sachez que dimanche, donc dans une semaine, nous serons en direct de Lille avant la rencontre France-Italie, le troisième match du tournoi des destinations. Tout de suite, les paris RMC autour de Brest-Marseille. À tout de suite sur RMC.